Deuxième partie, chapitre premier. Ils sortirent de Paris. Ils traversèrent les vastes plaines ensevelies dans le brouillard. C'était un soir semblable que Christophe, 10 ans avant, était arrivé à Paris. Il fuyait alors, déjà comme aujourd'hui. Mais alors l'ami vivait, l'ami qu'il aimait. Et Christophe, sans le savoir, alors, fuyait vers lui. Pendant la première heure, Christophe était encore dans l'excitation de la lutte. Il parlait beaucoup et fort. Il racontait d'une façon saccadée ce qu'il avait vu et fait. Il était fier de ses prouesses. Manous et Canet parlaient aussi pour l'étourdir. Peu à peu, la fièvre tomba, et Christophe se tut. Ses deux compagnons continuèrent seuls de parler. Il était ahuri par les aventures de l'après-midi, mais nullement abattu. Il se souvint du temps où il s'était enfui d'Allemagne. Fuir, toujours fuir. Il rit. C'était sans doute sa destinée. Quitter Paris ne lui causait pas de peine. La terre est vaste. Les hommes sont partout les mêmes. Où qu'il fût, ce ne lui importait guère, pourvu qu'il fût avec son ami. Il comptait le rejoindre le matin suivant. Ils arrivèrent à La Roche. Manous et Canet ne le quittèrent point, qu'ils ne l'eussent vu dans le train qui partait. Christophe se fit répéter l'endroit où il devait descendre, et le nom de l'hôtel, et la poste où il trouverait des nouvelles. Malgré eux, en le quittant, ils avaient des mines funèbres. Christophe leur serra gaiement la main. « Allons, leur cria-t-il, ne faites pas ces figures d'enterrement. On se reverra, que diable. Ce n'est pas une affaire. Nous nous écrirons demain. » Le train partit, ils le regardèrent s'éloigner. « Pauvre diable, » dit Manous. Ils remontèrent dans l'auto. Ils se taisaient. Au bout de quelque temps, Canet dit à Manous, « Je crois que nous venons de commettre un crime. » Manous ne répondit rien d'abord, puis il dit « Bah, les morts sont morts, il faut sauver les vivants. » Avec la nuit qui était venue, l'excitation de Christophe tomba tout à fait. Rancogné dans un angle de son compartiment, il méditait, dégrisé et glacé. En regardant ses mains, il y vit du sang qui n'était pas le sien. Il eut un frisson de dégoût. La scène du meurtre reparut. Il se rappela qu'il avait tué. Il ne savait plus pourquoi. Il recommença à se raconter la scène de la bataille. Mais il la voyait cette fois avec d'autres yeux. Il ne comprenait plus comment il y avait été mêlé. Il reprit le récit de la journée, depuis l'instant où il était sorti de la maison avec Olivier. Il refit avec lui le chemin à travers Paris, jusqu'au moment où il avait été aspiré dans le tourbillon. À ce moment, il cessait de comprendre. La chaîne de ses pensées se rompait. Comment avait-il pu crier, frapper, vouloir avec ces hommes dont il ne partageait pas la foi? Ce n'était pas lui. Éclipse de sa conscience et de sa volonté. Il en était stupéfait et honteux. Il n'était donc pas son maître, et qui était son maître? Il était emporté par l'express dans la nuit. Et la nuit intérieure où il était emporté n'était pas moins sombre, ni la force inconnue moins vertigineuse. Il secoua son trouble. Mais ce fut pour changer de souci. À mesure qu'il approchait du but, il pensait davantage à Olivier, et il commençait à ressentir une inquiétude sans raison. Au moment d'arriver, il regarda vers la portière si, sur le quai de la gare, la chère figure connue, personne. Il descendit, regardant toujours autour de lui. Une ou deux fois, il eut l'illusion, non, ce n'était pas lui. Il alla à l'hôtel convenu, Olivier n'y était point. Christophe n'avait pas lieu d'en être surpris. Lors, l'angoisse de l'attente commença. C'était le matin. Christophe monta dans sa chambre. Il redescendit. Il déjeuna. Il flâna dans les rues. Il affectait d'avoir l'esprit libre. Il regardait le lac, les étalages des boutiques. Il plaisantait avec la fille du restaurant. Il feuilletait les journaux illustrés. Il ne s'intéressait à rien. La journée se traînait lente et lourde. Vers 7 heures du soir, Christophe, qui ne sachant que faire, avait dîné plus tôt et de mauvais appétit, remonta dans sa chambre, en priant qu'aussitôt que viendrait l'ami qui l'attendait, on le conduisît chez lui. Il s'assit devant sa table, le dos tourné à la porte. Ils n'avaient rien pour l'occuper, aucun bagage, aucun livre. Seulement un journal qu'ils venaient d'acheter. Il se forçait à le lire, son attention était ailleurs. Il écoutait le bruit des pas dans le corridor. Tous ses sens étaient surexcités par la fatigue d'une journée d'attente et d'une nuit sans sommeil. Brusquement, il entendit qu'on ouvrait la porte. Un sentiment indéfinissable fit qu'il ne se retourna pas d'abord. Il sentit une main s'appuyer sur son épaule. Alors il se retourna et vit Olivier qui souriait. Il ne s'en étonna pas. Il dit « Ah, te voilà enfin !» Le mirage s'effaça. Christophe se leva violemment, repoussant la table et sa chaise qui tomba. Ses cheveux se hérissaient. Il resta un moment, livide, claquant des dents. À partir de cette minute, il avait beau ne rien savoir et se répéter « je ne sais rien », il savait tout. Il était sûr de ce qui allait venir. Il ne put rester dans sa chambre. Il sortit dans la rue, il marcha pendant une heure. À son retour, dans le vestibule de l'hôtel, le portier lui remit une lettre. La lettre. Il était sûr qu'elle serait là. Sa main tremblait en la prenant. Il remonta chez lui pour la lire. Il l'ouvrit, il vit qu'Olivier était mort. Et il s'évanouit. La lettre était de Manous. Manous disait qu'en lui cachant ce malheur, la veille, pour rater son départ, il n'avait fait qu'obéir aux vœux d'Olivier, qui voulait que son ami fût sauvé, qu'il n'eût servi de rien à Christophe de rester, sinon pour se perdre aussi, qu'il lui fallait se conserver pour la mémoire de son ami, et pour ses autres amis, et pour sa propre gloire, etc., etc. Aurélie avait ajouté 3 lignes de sa grosse écriture tremblée pour dire qu'elle prendrait bien soin du pauvre petit monsieur. Quand Christophe revint à lui, il eut une crise de fureur. Il voulait tuer Manous. Il courut à la gare. Le vestibule de l'hôtel était vide, les rues désertes. Dans la nuit, les rares passants attardés ne remarquèrent pas cet homme aux yeux fous qui haletait. Il était cramponné à son idée fixe comme un bulldog qui mord. Tuer Manous, tuer. Il voulut revenir à Paris. Le rapide de nuit était parti 1 heure avant. Il fallait attendre au lendemain matin. Impossible d'attendre. Il prit le premier train qui partait dans la direction de Paris. Un train qui s'arrêtait à toutes les stations. Seul dans le wagon, Christophe criait « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !» À la 2e station, après la frontière française, le train s'arrêta tout à fait. Il n'allait pas plus loin. Christophe, frémissant de rage, descendit, demandant un autre train, questionnant, se heurtant à l'indifférence des employés, à demi endormi. Quoi qu'il fît, il arriverait trop tard pour Olivier. Il ne parviendrait même pas à rejoindre Manous. Il serait arrêté avant. Que faire? Que vouloir? Continuer? Revenir? À quoi bon? À quoi bon? Il songea à se livrer à un gendarme qui passait. Un obscur instinct de vivre le retint, lui conseilla de retourner en Suisse. Aucun train ne partait plus dans l'une ou l'autre direction avant 2 ou 3 heures. Christophe s'assit dans la salle d'attente, ne put rester, sortit de la gare, prit une route au hasard dans la nuit. Il se trouva au milieu de la campagne déserte, coupé çà et là de bouquets de sapins, avant-garde d'une forêt. Il s'y enfonça. À peine y eut-il fait quelques pas, qu'il se jeta par terre et cria « Olivier !» Il se coucha en travers de la route et sanglota. Longtemps après, un sifflet de train, au loin, le fit se relever. Il voulut retourner à la gare. Il se trompa de chemin. Il marcha toute la nuit. Que lui importait, ici ou là? Marcher pour ne pas penser, marcher jusqu'à ce qu'on ne pense plus, jusqu'à ce qu'on tombe mort. Ah, si l'on pouvait être mort! À l'aube, il se trouva dans un village français, très loin de la frontière. Toute la nuit, il s'en était éloigné. Il entra dans une auberge, mangea voracement, repartit, marcha encore. Dans la journée, il s'écroula au milieu d'un pré. Il y resta jusqu'au soir, endormi. Lorsqu'il se réveilla, une nouvelle nuit commençait. Sa fureur était tombée. Il ne lui restait plus qu'une douleur atroce, irrespirable. Il se traîna jusqu'à une ferme, demanda un morceau de pain, une botte de paille pour dormir. Le fermier le dévisagea, lui coupa une tranche de miche, le conduisit dans l'étable, l'enferma. Couché dans la litière, près des vaches à l'odeur fade, Christophe dévorait son pain. Son visage ruisselait de larmes. Sa faim et sa douleur ne pouvaient s'apaiser. Cette nuit encore, le sommeil le délivra, pour quelques heures, de ses peines. Il se réveilla le lendemain au bruit de la porte qui s'ouvrait. Il resta étendu sans bouger. Il ne pouvait plus revivre. Le fermier s'arrêta devant lui et le regarda longuement. Il tenait à la main un papier sur lequel il jeta les yeux. Enfin, l'homme fit un pas et mit sous le nez de Christophe un journal. Son portrait en première page. « C'est moi, » dit Christophe. « Livrez-moi. »« Levez-vous, » dit le fermier. Christophe se leva. L'homme lui fit signe de le suivre. Ils passèrent derrière la grange, prirent un sentier qui tournait au milieu des arbres fruitiers. Arrivé à une croix, le fermier montra un chemin à Christophe et lui dit « La frontière est par là ». Christophe reprit sa route machinalement. Il ne savait pourquoi il marchait. Il était brisé de corps et d'âme. Il avait envie de s'arrêter à chaque pas. Mais il sentait que s'il s'arrêtait, il ne pourrait plus repartir de l'endroit où il serait tombé. Il marcha tout le jour encore. Il n'avait plus un sou pour acheter du pain. D'ailleurs, il évitait de traverser les villages. Par un sentiment bizarre qui échappait à sa raison, cet homme qui voulait mourir avait peur d'être pris. Son corps était comme un animal traqué qui fuit. Ses misères physiques, la fatigue, la faim, une terreur obscure qui se levait de son être épuisé, étouffaient pour l'instant sa détresse morale. Il aspirait seulement à trouver un asile où il lui fut permis de s'enfermer avec elle et de s'en repaître. Il passa la frontière. Au loin, il vit une ville que dominaient des tours aux clochetons effilés et des cheminées d'usines, dont les longues fumées, comme des rivières noires, monotones, coulaient, toutes dans le même sens, sous la pluie, dans l'air gris. À cet instant, il se rappela qu'il connaissait dans cette ville un docteur de son pays, un certain Erich Braun, qui lui avait écrit l'an passé, après un de ses succès, pour se rappeler à lui. Si médiocre que fût Braun, et si peu qu'il eût été mêlé à sa vie, Christophe, par un instinct de bête blessée, fit un suprême effort pour aller tomber chez quelqu'un qui ne lui fut pas tout à fait un étranger. Sous le voile de fumée et de pluie, il entra dans la ville grise et rouge. Il marcha au travers sans rien voir, demandant son chemin, se trompant, revenant sur ses pas, errant au hasard. Il était à bout de force. Par une dernière tension de sa volonté bandée, il lui fallut gravir des ruelles escarpées, des escaliers qui montaient au sommet d'une étroite colline, chargés de maisons, serrés autour d'une église sombre. 60 marches en pierre rouge, groupées par 3 ou par 6. Entre chaque groupe de marches, une plateforme exiguë pour la porte d'une maison. À chacune, Christophe reprenait haleine en chancelant. Là-haut, au-dessus de la tour, des corbeaux tournoyaient. Enfin, il lut sur une porte le nom qu'il cherchait. Il frappa. La ruelle était dans la nuit. De fatigue, il ferma les yeux. Nuit noire en lui, des siècles passèrent. La porte étroite s'entr'ouvrit. Sur le seuil parut une femme. Son visage était dans l'ombre, mais sa silhouette se détachait sur le fond clair d'un petit jardin que l'on apercevait au bout du long corridor au couchant. Elle était grande, se tenait droite, sans parler, attendant qu'il parlât. Il ne voyait pas ses yeux. Il sentait leur regard. Il demanda le docteur Erich Braun et se nomma. Les mots sortaient avec peine de sa gorge. Il était épuisé de fatigue, de soif et de faim. Sans un mot, la femme rentra, et Christophe la suivit dans une pièce au volet clos. Dans l'obscurité, il se heurta contre elle. Ses genoux et son ventre pressèrent ce corps silencieux. Elle sortit et ferma la porte sur lui, le laissant seul, sans lumière. Il restait immobile de crainte de renverser quelque chose, appuyé au mur, le front contre la paroi lisse. Ses oreilles bourdonnaient. Dans ses yeux, les ténèbres dansaient. À l'étage au-dessus, une chaise remuait, des exclamations de surprise, une porte fermée avec fracas. De lourds pas descendirent l'escalier. « Où est-il ? » demanda une voix connue. La porte de la chambre se rouvrit. « Comment ? On l'a laissé dans l'obscurité ? Anna, sacrebleu, une lumière !» Christophe était si faible, il se sentait si perdu, que le son de cette voix bruyante, mais cordiale, lui fit du bien dans sa misère. Il saisit les mains qu'on lui tendait. La lumière était venue. Les deux hommes se regardèrent. Brown était petit. Il avait la figure rouge avec une barbe noire, dure et mal plantée, de bons yeux qui riaient derrière des lunettes, un large front bosselé, ridé, tourmenté, inexpressif, des cheveux soigneusement collés au crâne et divisés par une raie qui descendait jusqu'à la nuque. Il était parfaitement laid, mais Christophe éprouvait un bien-être à le regarder et à serrer ses mains. Brown ne cachait pas sa surprise. « Bon Dieu, qu'il est changé! Dans quel état ?»« Je viens de Paris, » dit Christophe. « Je me suis sauvé. » « je sais, nous avons vu dans le journal. On disait que vous étiez pris. Dieu soit loué, nous avons bien pensé à vous, Anna et moi. » Il s'interrompit et montra à Christophe la figure silencieuse qu'il avait accueillie dans la maison, ma femme. Elle était restée à l'entrée de la chambre, une lampe à la main, un visage taciturne au fort menton. La lumière tombait sur ses cheveux bruns aux reflets roux et sur ses joues d'un teint mat. Elle tendit la main à Christophe d'un geste raide, le coude serré au corps. Il la prit sans regarder. Il défaillait. « Je suis venu, » essaya-t-il d'expliquer. « J'ai pensé que vous voudriez bien, si je ne vous gêne pas trop, me recevoir un jour. » Brown ne le laissa pas achever. « Un jour, 20 jours, 50, autant qu'il vous plaira. Tant que vous serez dans ce pays, vous logerez dans notre maison. » Et j'espère que ce sera longtemps. C'est un honneur et un bonheur pour nous. » Ces affectueuses paroles bouleversèrent Christophe. Il se jeta dans les bras de Brown. « mon bon Christophe !» disait Brown. Il pleure. « Eh bien, qu'est-ce qu'il a donc ? Anna, Anna, vite !» Il s'évanouit. Christophe s'était affaissé dans les bras de son hôte. La syncope qu'il sentait venir depuis quelques heures l'avait terrassé. Quand il rouvrit les yeux, il était couché dans un grand lit. Une odeur de terre humide montait par la fenêtre ouverte. Brown était penché sur lui. « Pardon, » balbutia Christophe, en tâchant de se relever. « Mais il meurt de faim !» cria Brown. La femme sortit, revint avec une tasse, le fit boire. Brown lui soutenait la tête. Christophe reprenait vie, mais la fatigue était plus forte que la faim. À peine la tête remise sur l'oreiller, il s'endormit. Brown et sa femme le veillèrent, puis, voyant qu'il n'avait besoin que de repos, ils le laissèrent. C'était un de ces sommeils qui semblent durer des années, sommeil accablé, accablant, comme du plomb au fond d'un lac. On est la proie de la lassitude amoncelée et des hallucinations monstrueuses qui rôdent éternellement aux portes de la volonté. Il voulait s'éveiller, brûlant, brisé, perdu dans cette nuit inconnue. Il entendait les horloges sonner d'éternelles demi. Il ne pouvait respirer, ni penser, ni bouger. Il était ligoté, bâillonné, comme un homme que l'on noie. Il voulait se débattre et retombait au fond. L'aube arriva enfin, l'aube tardive et grise d'un jour pluvieux. L'intolérable chaleur qui le consumait tomba, mais son corps gisait sous une montagne. Il se réveilla. Réveil terrible. Pourquoi rouvrir les yeux? Pourquoi me réveiller? Rester comme mon pauvre petit qui est couché sous la terre. Étendu sur le dos, il ne faisait pas un mouvement, bien qu'il souffrît de sa position dans le lit. Ses bras et ses jambes étaient lourds comme pierre. Il était dans un tombeau. Lumière blafarde. Quelques gouttes de pluie frappaient les carreaux. Un oiseau dans le jardin poussait de petits cris plaintifs. Oh, misère de vivre, inutilité cruelle. Les heures s'écoulèrent. Brown entra. Christophe ne tourna pas la tête. Brown, lui voyant les yeux ouverts, l'interpella joyeusement. Et comme Christophe continuait de fixer le plafond d'un regard morne, il entreprit de secouer sa mélancolie. Il s'assit sur le lit et bavarda bruyamment. Ce bruit était insupportable à Christophe. Il fit un effort qui lui sembla surhumain pour dire « Je vous en prie, laissez-moi. » Le brave homme changea le ton aussitôt. « Vous voulez être seul? Comment donc? Certainement. Restez bien tranquillement. Reposez-vous, ne parlez pas. On vous montrera les repas. Personne ne dira rien. » mais il lui était impossible d'être bref. Après d'interminables explications, il quitta la chambre sur le bout de ses gros souliers qui faisaient craquer le parquet. Christophe resta de nouveau seul, enfoncé dans sa lassitude mortelle. Sa pensée se diluait dans un brouillard de souffrance. Il s'épuisait à comprendre. Pourquoi l'avait-il connu? Pourquoi l'avait-il aimé? À quoi avait-il servi qu'Antoinette se dévoua? Quel sens avaient toutes ses vies, toutes ses générations? Une telle somme d'épreuves et d'espoirs, qui aboutissait à cette vie et s'était engouffrée avec elle dans le vide. Non-sens de la vie, non-sens de la mort. Un être raturé, toute une race disparue, sans qu'il en reste aucune trace. On ne sait ce qu'il emporte, de l'odieux ou du grotesque. Il lui venait un rire mauvais de désespoir et de haine. Son impuissance d'une telle douleur, sa douleur d'une telle impuissance, le tuait. Il avait le cœur broyé. Nul bruit dans la maison, que les pas du docteur sortant pour ses visites. Christophe avait perdu toute notion du temps lorsque Anna parut. Elle portait le dîner sur un plateau. Il la regarda sans faire un mouvement, sans même remuer les lèvres pour remercier. Mais dans ses yeux fixes, qui semblaient ne rien voir, l'image de la jeune femme se grava avec une netteté photographique. Longtemps après, quand il la connut mieux, c'est ainsi qu'il continua de la voir. Les images plus récentes ne parvinrent pas à effacer ce premier souvenir. Elle avait des cheveux épais, tirés en lourds chignons, le front bombé, de larges joues, le nez court et droit, les yeux obstinément baissés, ou qui, lorsqu'il rencontrait d'autres yeux, se dérobait avec une expression peu franche et sans bonté, les lèvres un peu grosses, serrées l'une contre l'autre, l'air buté, presque dur. Elle était grande, elle semblait robuste et bien faite, mais étriquée dans ses vêtements et raide dans ses mouvements. Elle alla sans parole et sans bruit, posa le plateau sur la table près du lit et repartit les bras collés au corps, le front baissé. Christophe ne songea pas à s'étonner de cette apparition étrange et un peu ridicule. Il ne toucha pas au dîner et continua de souffrir en silence. Le jour passa, le soir revint, et de nouveau Anna avec de nouveaux plats. Elle trouva intact ce qu'elle avait apporté le matin, et elle les remporta sans une observation. Elle n'eut pas un de ces mots affectueux que toute femme trouve d'instinct pour s'adresser à un malade. Il semblait que Christophe n'existât pas pour elle, ou qu'il existât à peine. Christophe éprouvait une sourde hostilité, en suivant avec impatience, cette fois, ses mouvements gauches et guindés. Pourtant, il lui était reconnaissant de ne pas essayer de parler. Il le fut encore plus, quand il eut à subir, après son départ, l'assaut du docteur qui venait de s'apercevoir que Christophe n'avait pas touché son premier plat. Indigné contre sa femme de ce qu'elle ne l'eût pas fait manger de force, il voulait y contraindre Christophe. Pour avoir la paix, Christophe dut avaler quelques gorgées de lait. Après quoi, il lui tourna le dos. La seconde nuit fut plus calme. Le lourd sommeil recouvrit Christophe de son néant. Plus trace de l'odieuse vie. Mais le réveil fut encore plus asphyxiant. Il se remémorait tous les détails de la fatale journée, la répugnance d'Olivier à sortir de la maison, ses instances pour rentrer, et il se disait avec désespoir, « C'est moi qui l'ai tué. » Impossible de rester seul, enfermé, immobile, sous la griffe du sphinx aux yeux féroces, qui continuait de lui souffler au visage le vertige de ses questions et son souffle de cadavre. Il se leva, fiévreux. Il se traîna hors de la chambre. Il descendit l'escalier. Il avait le besoin instinctif et peureux de se serrer contre d'autres hommes. Et dès qu'il entendit une autre voix, il eut voulu s'enfuir. Brown était dans la salle à manger. Il accueillit Christophe avec ses démonstrations d'amitié ordinaires. Tout de suite, il se mit à l'interroger sur les événements parisiens. Christophe lui saisit le bras. « Non, dit-il, ne me demandez rien. Plus tard, il ne faut pas m'en vouloir, je ne puis pas, je suis là à mourir, je suis là. » « je sais, dit Brown affectueusement. Les nerfs sont ébranlés. Ce sont les émotions des jours précédents. Ne parlez pas, ne vous contraignez à rien. Vous êtes libre, vous êtes chez vous, on ne s'occupera pas de vous. » Il tint parole. Pour éviter de fatiguer son hôte, il tomba dans l'excès opposé. Il n'osait plus causer devant lui avec sa femme. On parlait à voix basse, on marchait sur le bout des pieds. La maison devint muette. Il fallut que Christophe, agacé par cette affectation de silence chuchotant, pria Brown de continuer à vivre, comme par le passé. Les jours suivants, on ne s'occupa donc plus de Christophe. Il restait assis pendant des heures dans le coin d'une chambre, ou bien il circulait à travers la maison comme un homme qui rêve. À quoi pensait-il? Il n'aurait pu le dire. À peine s'il avait encore la force de souffrir. Il était anéanti. La sécheresse de son cœur lui faisait horreur. Il n'avait qu'un désir, être enterré avec lui, et que tout fût fini. Une fois, il trouva la porte du jardin ouverte, et il sortit. Mais ce lui fut une sensation si pénible de se retrouver dans la lumière, qu'il revint précipitamment et se barricada dans sa chambre, volet clos. Les jours de beau temps le torturaient. Il haïssait le soleil. La nature l'accablait de sa brutale sérénité. À table, il mangeait en silence ce que Brown lui servait, et les yeux fixés sur la table, il restait sans parler. Brown lui montra un jour, dans le salon, un piano. Christophe s'en détourna avec terreur. Tout bruit lui était odieux. Le silence et la nuit. Il n'y avait plus en lui que le vide et le besoin du vide. Fini de sa joie de vivre, de ce puissant oiseau de joie qui jadis s'élevait par élan emporté en chantant. Des journées, assis dans sa chambre, il n'avait d'autre sensation de vivre que le pouls boiteux de l'horloge dans la chambre voisine qui lui semblait battre dans son cerveau. Et pourtant, le sauvage oiseau de joie était encore en lui, il avait de brusques envolées, il se cognait au barreau. Et c'était au fond de l'âme un affreux tumulte de douleur, le cri de détresse d'un être demeuré seul dans une vaste étendue dépeuplée. La misère du monde est qu'on n'y a presque jamais un compagnon. Des compagnes, peut-être, et des amis de rencontre. On est prodigue de ce beau nom d'ami. En réalité, on n'a guère qu'un ami dans la vie, et bien rares ceux qui l'ont. Mais ce bonheur est si grand qu'on ne sait plus vivre quand on ne l'a plus. Il remplissait la vie sans qu'on y eût pris garde. Il s'en va, la vie est vide. Ce n'est pas seulement l'aimer qu'on a perdu, c'est toute raison d'aimer, toute raison d'avoir aimé. Pourquoi a-t-il vécu? Pourquoi a-t-on vécu? Le coup de cette mort était d'autant plus terrible pour Christophe qu'elle le frappait à un moment où son être se trouvait déjà secrètement ébranlé. Il est dans la vie des âges où s'opère au fond de l'organisme un sourd travail de transformation. Alors le corps et l'âme sont plus livrés aux atteintes du dehors. L'esprit se sent affaibli, une tristesse vague le mine, une satiété des choses, un détachement de ce qu'on a fait, une incapacité de voir encore ce qu'on pourra faire d'autre. Aux âges où se produisent ces crises, la plupart des hommes sont liés par les devoirs domestiques. Sauvegarde pour eux, qui leur enlève, il est vrai, la liberté d'esprit nécessaire pour se juger, s'orienter, se refaire une forte vie nouvelle. Que de tristesse cachée, que d'amer dégoût. Marche, marche, il te faut passer outre. La tâche obligée, le souci de la famille dont on est responsable, tiennent l'homme ainsi qu'un cheval qui dort debout et continue d'avancer, harassé, entre les brancards. Mais l'homme tout à fait libre n'a rien qui le soutienne à ses heures de néant et qui le force à marcher. Il va, par habitude, il ne sait où il va. Ses forces sont troublées, sa conscience obscurcie. Malheur à lui si, dans ce moment où il est assoupi, un coup de tonnerre vient interrompre sa marche de somnambule. Il s'écroule. Quelques lettres de Paris, qui finirent par le joindre, arrachèrent pour un instant Christophe à son apathie désespérée. Elle venait de Cécile et de Madame Arnaud. Elle lui apportait des consolations. Pauvres consolations, consolations inutiles. Ceux qui parlent sur la douleur ne sont pas ceux qui souffrent. Elle lui apportait surtout un écho de la voix disparue. Il n'eut pas le courage de répondre, et les lettres se turent. Dans son abattement, il cherchait à effacer la trace, disparaître. La douleur est injuste. Tous ceux qu'il avait aimés n'existaient plus pour lui. Un seul être existait, celui qui n'existait plus. Pendant des semaines, il s'acharna à le faire revivre. Il conversait avec lui. Il lui écrivait. « Mon âme, je n'ai pas reçu ta lettre aujourd'hui. Où es-tu ? Reviens, reviens, parle-moi, écris-moi. » Mais la nuit, malgré ses efforts, il ne parvenait pas à le revoir en rêve. On rêve peu à ceux qu'on a perdus, tant que leur perte nous déchire. Ils reparaissent plus tard quand l'oubli vient. Cependant, la vie du dehors s'infiltrait peu à peu dans ce tombeau de l'âme. Christophe commença par réentendre les divers bruits de la maison et s'y intéresser sans qu'il s'en aperçût. Il sut à quelle heure la porte s'ouvrait et se fermait. Combien de fois dans la journée et de quelle façon différente suivant les visiteurs. Il connut le pas de Brown. Il s'imaginait voir le docteur, au retour de ses visites, arrêté dans le vestibule et accrochant son chapeau et son manteau, toujours de la même manière méticuleuse et maniaque. Et lorsqu'un des bruits accoutumés cessait de se faire entendre dans l'ordre prévu, il cherchait malgré lui la raison du changement. À table, il se mit à écouter machinalement la conversation. Il s'aperçut que Brown parlait presque toujours seul. Sa femme ne lui faisait que de brèves répliques. Brown n'était pas troublé du manque d'interlocuteurs. Il racontait, avec sa bonhomie bavarde, les visites qu'il venait de faire et les commérages recueillis. Il arriva que Christophe le regarda, tandis que Brown parlait. Brown en était tout heureux, il s'ingéniait à l'intéresser. Christophe tâcha de se reprendre la vie. Quelle fatigue! Il se sentait vieux, vieux comme le monde. Le matin, quand il se levait, quand il se voyait dans la glace, il était las de son corps, de ses gestes, de sa forme stupide. Se lever, s'habiller, pourquoi? Il fit d'immenses efforts pour travailler. C'était à vomir. À quoi bon créer, puisque tout est destiné au néant? La musique lui était devenue impossible. On ne juge bien de l'art, comme du reste, que par le malheur. Le malheur est la pierre de touche. Alors seulement on connaît ceux qui traversent les siècles, les plus forts que la mort. Bien peu résistent. On est frappé de la médiocrité de certaines âmes sur lesquelles on comptait. Des artistes qu'on aimait, des amis dans la vie. Qui surnage ? Que la beauté du monde sonne creux sous le doigt de la douleur. Mais la douleur se lasse et sa main s'engourdit. Les nerfs de Christophe se détendaient. Il dormait, dormait sans cesse. On eût dit qu'il ne parviendrait jamais à assouvir cette faim de dormir. Et une nuit, enfin, il eut un sommeil si profond qu'il ne s'éveilla que dans l'après-midi suivante. La maison était déserte. Brown et sa femme étaient sortis. La fenêtre était ouverte, l'air lumineux riait. Christophe se sentait déchargé d'un poids écrasant. Il se leva et descendit au jardin. Un rectangle étroit enfermé dans de hauts murs, à l'aspect de couvent. Quelques allées sablées entre des carrés de gazon et de fleurs bourgeoises. Un berceau où s'enroulait une treille et des roses. Un filet d'eau minuscule s'égouttait d'une grotte en rocaille. Un acacia adossé au mur penchait ses branches odorantes sur le jardin voisin. Par-delà s'élevait la vieille tour de l'église en grès rouge. Il était 4 heures du soir. Le jardin se trouvait déjà dans l'ombre. Le soleil baignait encore la cime de l'arbre et le clocher rouge. Christophe s'assit sous la tonnelle, le dos tourné au mur, la tête renversée en arrière, regardant le ciel limpide parmi les entrelacs de la vigne et des roses. Il lui semblait s'éveiller d'un cauchemar. Un silence immobile régnait. Au-dessus de sa tête, une liane de roses languissamment pendait. Soudain, la plus belle s'effeuilla, expira. La neige de ses pétales se répandit dans l'air. C'était comme une belle vie innocente qui mourait. Si simplement. Dans l'esprit de Christophe, cela prit une signification d'une douceur déchirante. Il suffoqua. Et, se cachant la figure dans ses mains, il sanglota. Les cloches de la tour sonnèrent. D'une église à l'autre, d'autres voix répondirent. Christophe n'eut pas conscience du temps qui s'écoula. Quand il releva la tête, les cloches s'étaient tues, le soleil avait disparu. Christophe était soulagé par ses larmes. Son esprit était lavé. il écoutait en lui sourdre un filet de musique et regardait le fin croissant de lune glisser dans le ciel du soir. Un bruit de pas qui rentrait l'éveilla. Il remonta dans sa chambre, s'enferma à double tour et il laissa couler la fontaine de musique. Brown l'appela pour dîner. Il frappa à la porte. Il essaya d'ouvrir. Christophe ne répondit pas. Brown, inquiet, regarda par la serrure et se rassura en voyant Christophe à demi couché sur sa table, au milieu de papiers qu'il noircissait. Quelques heures après, Christophe, épuisé, descendit et trouva dans la salle du bas le docteur qui l'attendait patiemment en lisant. Il l'embrassa, lui demanda pardon de ses façons d'agir depuis son arrivée, et, sans que Brown l'interrogeât, il se mit à lui raconter les dramatiques événements des dernières semaines. Ce fut la seule fois qu'il lui en parla. Encore n'était-il pas sûr que Brown eût bien compris. Car Christophe discourait sans suite, la nuit était avancée, et malgré sa curiosité, Brown mourait de sommeil. À la fin, 2 heures sonnaient, Christophe s'en aperçut, ils se dirent bonne nuit. L'existence de Christophe se réorganisa. Il ne se maintint pas dans cet état d'exaltation passagère. Il revint à sa tristesse, mais à une tristesse normale qui ne l'empêchait pas de vivre. Revivre, il le fallait bien. Cet homme qui venait de perdre ce qu'il aimait le plus au monde, cet homme que son chagrin minait, qui portait la mort en lui, avait une telle force de vie, abondante, tyrannique, qu'elle éclatait en ses paroles de deuil, elle rayonnait de ses yeux, de sa bouche, de ses gestes. Mais au cœur de cette force, un ver rongeur s'était logé. Christophe avait des accès de désespoir. C'étaient des élancements. Il était calme, il s'efforçait de lire, où il se promenait. Brusquement, le sourire d'Olivier, son visage las et tendre, un coup de couteau au cœur. Il chancelait, il portait la main à sa poitrine en gémissant. Une fois, il était au piano, il jouait une page de Beethoven avec sa fougue d'autrefois. Tout à coup, il s'arrêtait. Il se jetait par terre et, s'enfonçant la figure dans les coussins d'un fauteuil, il criait « Mon petit !» Le pire était l'impression du déjà vécu. Il l'avait à chaque pas. Incessamment, il retrouvait les mêmes gestes, les mêmes mots, le retour perpétuel des mêmes expériences. Tout lui était connu, il avait tout prévu. Telle figure qui lui rappelait une figure ancienne allait dire, il en était sûr d'avance, disait les mêmes choses qu'il avait entendu dire à l'autre. Les êtres analogues passaient par des phases analogues, se heurtaient aux mêmes obstacles et s'y usaient de même. S'il est vrai que rien ne lasse de la vie comme le recommencement de l'amour, combien plus le recommencement de tout. C'était à devenir fou. Christophe tâchait de n'y pas penser, puisqu'il était nécessaire de n'y pas penser pour vivre, et puisqu'il voulait vivre. Hypocrisie douloureuse, qui ne veut point se connaître par honte, par pitié même, invincible besoin de vivre qui se cache. Sachant qu'il n'est point de consolation, il se crée des consolations. Convaincu que la vie n'a point de raison d'être, il se forge des raisons de vivre. Il se persuade qu'il faut qu'il vive, alors que personne n'y tient que lui. Au besoin, il inventera que la mort l'encourage à vivre. Et il sait qu'il prête aux morts les paroles qu'il veut lui dire. Misère. Christophe reprit sa route. Son pas sembla retrouver l'ancienne assurance. Sur sa douleur, la porte du cœur se referma. Il n'en parlait jamais aux autres. Lui-même, il évitait de se trouver seul avec elle. Il paraissait calme. Les peines vraies, dit Balzac, sont en apparence tranquilles, dans le lit profond qu'elles se sont fait, où elles semblent dormir, mais où elles continuent à corroder l'âme. Qui eût connu Christophe et l'eût bien observé, allant, venant, causant, faisant de la musique, riant même, il riait maintenant, eût senti qu'il y avait dans cet homme vigoureux, aux yeux brûlants de vie, quelque chose de détruit, au plus profond de la vie. Du moment qu'il était rivé à la vie, il devait s'assurer les moyens de vivre. Il ne pouvait être question pour lui de quitter la ville. La Suisse était l'abri le plus sûr, et où aurait-il trouvé l'hospitalité plus dévouée? Mais son orgueil ne pouvait s'accommoder de l'idée de rester à la charge d'un ami. Malgré les protestations de Brown, qui ne voulait rien accepter, il ne fut pas tranquille jusqu'à ce qu'il eût quelques leçons de musique qui lui permissent de payer une pension régulière à ses hôtes. Ce ne fut pas facile. Le bruit de son équipée révolutionnaire s'était répandu, et les familles bourgeoises répugnaient à introduire chez elles un homme qui passait pour dangereux, ou en tout cas pour extraordinaire, par conséquent pour peu convenable. Cependant, sa renommée musicale et les démarches de Brown réussirent à lui ouvrir l'accès de 4 ou 5 maisons moins timorées ou plus curieuses, peut-être désireuses par snobisme artistique de se singulariser. Elles ne furent pas les moins attentives à le surveiller et à maintenir entre maître et élève des distances respectables. La vie s'arrangea chez Brown sur un plan méthodiquement réglé. Le matin, chacun allait à ses affaires, le docteur à ses visites, Christophe à ses leçons, Madame Brown au marché et à ses œuvres édifiantes. Christophe rentrait vers 1 heure, d'habitude avant Brown, qui défendait qu'on l'attendît, et il se mettait à table avec la jeune femme. Ce ne lui était point agréable, car elle ne lui était pas sympathique, et il ne trouvait rien à lui dire. Elle ne se donnait aucun mal pour combattre cette impression, dont il était impossible qu'elle n'eût pas conscience. Elle ne se mettait en frais ni de toilette ni d'esprit. Jamais elle n'adressait la parole à Christophe la première. La disgrâce de ses mouvements et de son habillement, sa gaucherie, sa froideur, eussent éloigné tout homme, sensible comme Christophe à la grâce féminine. Quand il se rappelait la spirituelle élégance des Parisiennes, il ne pouvait s'empêcher, en regardant Anna, de penser « comme elle est laide ». Ce n'était pourtant pas juste, et il ne tarda pas à remarquer la beauté de ses cheveux, de ses mains, de sa bouche, de ses yeux, aux rares instants où il lui arrivait de rencontrer ce regard qui se dérobait toujours. Mais son jugement n'en était pas modifié. Par politesse, il s'obligeait à lui parler. Il cherchait avec peine des sujets de conversation. Elle ne l'aidait en rien. 2 ou 3 fois, il essaya de l'interroger sur sa ville, sur son mari, sur elle-même. Il n'en put rien tirer. Elle répondait des choses banales. Elle faisait un effort pour sourire, mais cet effort se sentait d'une façon désagréable. Son sourire était contraint, sa voix sourde. Elle laissait tomber chaque mot, chaque phrase était suivie d'un silence pénible. Christophe finit par lui parler le moins possible, et elle lui en sut gré. C'était un soulagement pour tous deux quand le docteur rentrait. Il était toujours de bonne humeur, bruyant, affairé, vulgaire, excellent homme. Il mangeait, buvait, parlait, riait abondamment. Avec lui, Anna causait un peu, mais il n'était guère question dans ce qu'ils disaient ensemble que des plats qu'on mangeait ou du prix de chaque chose. Parfois, Brown s'amusait à la taquiner sur ses œuvres pieuses et les sermons du pasteur. Elle prenait alors un air raide et se taisait, offensée, jusqu'à la fin du repas. Plus souvent, le docteur racontait ses visites. Il se complaisait à décrire certains cas répugnants avec une joviale minutie qui mettait hors de lui Christophe. Celui-ci jetait sa serviette sur la table et se levait avec des grimaces de dégoût qui faisaient la joie du narrateur. Brown cessait aussitôt et apaisait son ami en riant. Au repas suivant, il recommençait. Ses plaisanteries d'hôpital semblaient avoir le don d'égayer l'impassible Anna. Elle sortait de son silence par un rire brusque et nerveux qui avait quelque chose d'animal. Peut-être n'éprouvait-elle pas moins de dégoût que Christophe pour ce dont elle riait. L'après-midi, Christophe avait peu d'élèves. Il restait ordinaire à la maison, avec Anna, tandis que le docteur sortait. Ils ne se voyaient pas. Chacun travaillait de son côté. Au début, Brown avait prié Christophe de donner quelques leçons de piano à sa femme. Elle était, suivant lui, assez bonne musicienne. Christophe demanda à Anna de lui jouer quelque chose. Elle ne se fit point prier, malgré le déplaisir qu'elle en avait. Mais elle y apporta son manque de grâce habituel. Elle avait un jeu mécanique d'une insensibilité inimaginable. Toutes les notes étaient égales, nul accent, nulle part. Ayant à tourner la page, elle s'arrêta froidement au milieu d'une phrase, ne se hâta point, et reprit à la note suivante. Christophe en fut si exaspéré qu'il eut peine à ne pas lui dire une grossièreté. Il ne put s'en défendre qu'en sortant avant la fin du morceau. Elle ne s'en troubla point, continua imperturbablement jusqu'à la dernière note, ne se montra ni mortifié ni blessé de cette impolitesse. À peine sembla-t-elle s'en être aperçue, mais entre eux il ne fut plus question de musique. Les après-midi où Christophe sortait, il lui arriva, rentrant à l'improviste, de trouver Anna qui étudiait au piano avec une ténacité glaciale et insipide, répétant 50 fois sans se lasser la même mesure et ne s'animant jamais. Jamais elle ne faisait de musique quand elle savait Christophe à la maison. Elle employait aux soins du ménage tout le temps qu'elle ne consacrait pas à ses occupations religieuses. Elle cousait, recousait, elle surveillait la domestique, elle avait le souci maniaque de l'ordre et de la propreté. Son mari la tenait pour une brave femme, un peu baroque, comme toutes les femmes, disait-il. Mais, comme toutes les femmes, dévouées. Sur ce dernier point, Christophe faisait in petto des réserves. Cette psychologie lui semblait trop simpliste, mais il se disait qu'après tout, c'était l'affaire de Brown, et il n'y pensait plus. On se réunissait le soir après dîner. Brown et Christophe causaient. Anna travaillait. Sur les prières de Brown, Christophe avait consenti à se remettre au piano, et il jouait jusqu'à 1 heure avancée dans le grand salon, mal éclairé, qui donnait sur le jardin. Brown était dans l'extase. Qui ne connaît de ces gens passionnés pour des œuvres qu'ils ne comprennent point ou qu'ils comprennent à rebours? C'est bien pour cela qu'ils les aiment. Christophe ne se fâchait plus. Il avait déjà rencontré tant d'imbéciles dans la vie. Mais à certaines exclamations d'un enthousiasme saugrenu, il cessait de jouer et il remontait dans sa chambre. Brown finit par en soupçonner la cause et il mit une sourdine à ses réflexions. D'ailleurs, son amour pour la musique était vite repu. Il n'en pouvait écouter avec attention plus d'un quart d'heure de suite. Il prenait son journal, ou bien somnolait, laissant Christophe tranquille. Anna, assise au fond de la chambre, ne disait mot. Elle avait un ouvrage sur les genoux et semblait travailler. Mais ses yeux étaient fixes, ses mains immobiles. Parfois, elle sortait sans bruit au milieu du morceau et on ne la revoyait plus.